Finalement, a métamorphosé la Tunisie. Ce soir, avec l'auteur Abdelwahab Medeb et avec le réalisateur Ferid Bouguedir, nous allons nous plonger dans la Tunisie, ses valeurs et ses senteurs. Si ce soir, à partir de 21h, France Inter. La différence. 15h04, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet pour là-bas, si je suis.
Bonjour, je viens d'entendre le reportage d'aujourd'hui sur René.
Bonjour, Daniel.
yaş pencere mende. Yaş politik ideolojik kırpıdan müzik ite. Yine yaş kudret ve misyon de prizemi. Fantamaya var anet. Anet hukuan düşünme.
Yeah.
ton Seigneur. Vous souvenez, l'été dernier, ça peut revenir. Cet été, comment juge notre président de la République et son gouvernement sans son prix. Voilà, voleur de foule que ces gens-là contre les voleurs de pompiers pour des boucs émissaires littéralement raflés et renvoyés dans leur
aberration, personne soulève ce problème. Africa même incroyable, il n'y a point de journalistes de gauche nulle part, des économistes. Invitez Jacques Généreux, faites-lui expliquer. Denis Cifer nous dit que c'est un salarié modeste, au chômeur ou à l'exclu, mais aussi aux enseignants et au personnel hospitalier que l'on adresse cette remontrance. Vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est quand même quelque chose d'effrayant qu'on reproche à des petites gens de vivre au-dessus de leurs moyens, d'obliger des États à emprunter sur les marchés financiers à des taux insensés. Mais dans quel monde on vit? Et que personne parmi les journalistes voit ce problème d'un autre angle, même sur France Inter, on comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ces écoles de journalistes qui forment des journalistes qui disent tous la même chose, qui voient pas l'autre côté des médailles, qui nous servent tous le même discours? C'est quand même absolument scandaleux. C'est Jocelyne de l'Ardèche.
Sur scène, la banlieue sud,
C'est grandi, qui s'étend, qui a plein de projets et qui a surtout de nouveaux habitants, de nouveaux ivriens. Ces nouveaux ivriens sont des Roumains, à majorité Roms, 80% de Roms, qui ont subi des catastrophes entre guillemets naturelles, pas forcément naturelles pour la deuxième. Ils ont d'abord été chassés de leur village en Roumanie, qui s'appelle Doroy, je le prononce peut-être pas bien, par une inondation. Donc c'est des gens qui se connaissent bien, ils habitaient le même village pour la plupart. Ils se sont retrouvés donc chassés par cette inondation de l'exil. Perdu, mais aussi sûrement par les conditions misérables qui leur sont faites en Roumanie, mais pas seulement en Roumanie, et qui se sont retrouvés donc dans un campement pas de choisi. Bon, ils ont été chassés à nouveau suite à un incendie qui lui est criminel. Criminel, il avait des conséquences dramatiques puisqu'il y a eu un mort. C'était un dimanche. Ils étaient donc une centaine. Ils se sont retrouvés sur les trottoirs sans rien, plus de papier, plus de temps, rien quoi. Voilà. Là-dessus, la municipalité a réagi tout de suite parce qu'il y a des traditions à ivrer. D'accueil, de solidarité, ils ont trouvé refuge dans la journée dans un gymnase où ils sont restés quelque temps et où la solidarité s'est développée. Il y a eu la frite de vêtements, de nourriture, à travers les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les Secours Populaires, et ils ont trouvé un terrain où ils sont actuellement, où ils vont aller. Et ce terrain, ce n'est pas un terrain municipal, parce qu'il n'y a pas d'autre terrain ivré. La ville a préempté tous les terrains libres et a des projets sur tous ces terrains. Il faut savoir que ces Roumains ne sont pas les seuls Roumains qui sont dans la ville. Depuis plusieurs années, il y a des campements roumains, des petits campements, qui existent maintenant et des projets de vie. Donc il y a déjà une tradition dans ce domaine dans la ville.
évidemment, qui devraient être les figures symboliques de cette Europe qui en sont les arpenteurs depuis très longtemps, au moins dans
fait le 14
νέος τσιγκάνης, από πόρτο σιγκάνη, σαγωδιέλη σιγκάνη. Χάμε φυτέ μου, οριέντο κουέντες και συντηζόκη κομφούι μόησε τα διεύχολα με μόη μάλλη πασίμε υποσκυρικός ένιδη βρέμω Μέμψη, ελέγχο παθριέτε, ομέν τη φασόν γενεάλε βιβ απένιμιέ, και σε εμ τε δεχομένη. Ρίξησε ευηδε μόντε, ευήφω λαμάλ κελκοσουά, association locale, alors ça c'est vrai, il y a un concert de Titi Robin, ça c'est dans toutes les manifestations de solidarité, cela est exemplaire, c'est donc Titi Robin, un grand artiste, un grand musicien, un grand guitariste. Il se trouve, le hasard fait que son accordéoniste s'appelle Francis Varis, est ivrien, et voisin du camp où sont les Roumains actuellement, a donc appris l'existence de cette situation, et c'est lui qui a proposé à Titi Robin, qui a accepté tout de suite, une soirée au Gare, qui est un lieu musical à Ivry. Toute la recette de cette soirée sera reversée au collectif de soutien aux Roumains d'Ivry pour tous les besoins toujours importants dans le camp. Mais sa solidarité ne s'arrête pas là, il a proposé de venir sur le camp donner un concert pour les Roumains. Et alors, il y a une petite histoire dans la grande histoire, c'est que au moment de l'incendie, il y a toujours des accordéonistes, évidemment, dans un campement roumain ou l'homme, et un des accordéonistes a perdu son accordéon. Son accordéon a été brûlé. En fait, l'argent qui va être collecté servira aussi à offrir un nouvel accordéon à notre accordéoniste roumain qui s'est trouvé sans instrument. Et vive la musique! Vive la musique! Surtout la musique solidaire. Sacha, qui es-tu pour organiser tout ça et pour être là aujourd'hui avec nous et nous emmener dans ce, sur ce terrain? Moi, je suis un militant de la vie, associatif et politique. Je ne connaissais pas la situation de cette population. J'ai réagi quand j'ai appris qu'il y avait une centaine de gens qui étaient sur le trottoir dans ma ville. Et donc, comme d'autres militants d'associations comme la FCPA, les catholiques d'Ivry, Rome-Europe, qui est une association constituée depuis longue date, qui s'occupe des problèmes des Roumains dans notre pays et au-delà, la jeunesse communiste, moi je me suis individuellement, je me suis intégré dans ce collectif en tant que militant communiste, voilà. Mais toutes les sensibilités sont représentées. Il y a évidemment des gens qui sont simplement des gens engagés et qui réagissent avec leur cœur. Quand on prend la rue Trion, alors là, c'est une autre histoire. Ça s'appelle la résidence Trion. C'est la rue du Campement. Eh bien, Romain, vous voyez l'état de cette résidence? On peut penser que c'est une cité HLM plus ou moins bien entretenue. Ce sont des copropriétaires, mais ce qu'on peut appeler des copropriétaires pauvres. Et là, il y a eu une manifestation. Évidemment, tu ne vas pas nous étonner. Une manifestation de rejet de la présence de ces familles roumaines, organisée par un tout petit noyau de gens qui pour moi biberonne à l'idéologie du Front National et qui ont fait une pétition demandant l'exclusion de ces familles depuis le début. Il y a un autre porte-à-porte fait par des amis du collectif qui a reçu aussi un très bon accueil avec des gens qui ont dit qu'ils n'avaient évidemment pas signé ce type d'opposition misérable. Demandez au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Rome.
Nicolas Sarkozy.
Ce sont des gens de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France.
30 juillet 2010.
Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. Mais les Roms qui viendraient en France pour s'installer sur des emplacements légaux sont les bienvenus. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Eh bien, nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps qui font l'objet d'une décision de justice. Et là où cette décision de justice n'a pas encore été prise, nous engagerons les démarches pour qu'elle intervienne le plus rapidement possible dans les 3 mois. La moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français.
Comme si de rien n'était, c'est avec un large sourire que Nicolas Sarkozy pose pour la photo de famille. BFM TV, officiellement donc, tout va bien, 16 septembre 2010. Mais depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Paris et Bruxelles sur la question des Roms, et c'est à l'heure du déjeuner que le ton sera monté, selon le Premier ministre bulgare, Nicolas Sarkozy aurait eu un échange très violent avec José Manuel Barroso, qui en profite pour glisser cette petite phrase lors d'une conférence de presse.
C'est inacceptable toute sorte de discrimination en Europe en termes
président français, Nicolas Sarkozy, qui persiste et signe « Les expulsions de Rome vont bien se poursuivre ».
Nous allons donc continuer à démanteler les camps illégaux sans aucune distinction d'origine ou de culture.
Pas de changement de cap donc pour le chef de l'État qui a redit qu'il avait été très blessé par les propos de Viviane Reding, la commissaire à la justice qui avait comparé les expulsions de Rome à la déportation des Juifs.
La chasse aux Roms est là, la est une, comme vous le savez, une industrie nationale. 10 000 à 12 000 Roms sont reconduits dans le pays chaque année, ce qui permet d'assurer les quotas entre les Roms et les Comoriens de Mayotte. On est arrivé presque au quota qui s'impose. Et ce gouvernement, mais ils reviennent bien sûr rapidement, on les revoit.
Vous avez deux chemins, un choix plus tranquille un choix plus périlleux, là, dans la,
gestion. C'est ça, tout de suite le plus périlleux.
Ouais, j'ai l'habitude, c'est pour ça que je m'accroche là, faites comme moi, si
bah, il faut s'accrocher à la branche.
Allez, ouais. Mais t'as quelque chose de Johnny Westmiller dans Tarzan quand tu descends, Sacha.
Absolument.
Là, c'est un grand terrain. Il y a les lignes de chemin de fer, c'est le RER, là.
Absolument.
C'est ça?
Oui.
Absolument. C'est le RERC qui passe. Et qui berce tout le monde le jour et la nuit ici. La première barre qui est la plus voisine, c'est la résidence Truillon dont je vous ai parlé. Et là, les bâtiments, là, c'est la cité Gagarine, où ils ont été il y a 15 jours. Invités. Et où on espère que quelques habitants viendront participer à la fête. Alors, il y a quelques dizaines de toiles de tente, il n'y a pas de caravane, hein, c'est plutôt...
Il n'y a aucune caravane,
de toute manière, c'est des pauvres de chez pauvres, et ils n'avaient pas de caravane.
Bonjour.
Mais c'est un enfant qui joue de la caméra.
Là-bas, l'accordéonneuse, tu m'en.
Il y a deux femmes enceintes, là, qui sont là, et puis un petit bonhomme, là, avec un accordéon.
Médaillon.
Quel âge il a?
Trois
ans.
Yeah.
خانم من بزرگ کردم چیچی بابای تو بزرگ که پیرم من فکر کنیم
Oh,
dire. Alors comment vous envisagez la suite ici?
Le problème c'est que la suite c'est très compliqué. C'est très compliqué pour une ville de même aussi riche et bien gérée qu'il y a sur scène, 200 personnes à accueillir, c'est extrêmement difficile. Non, moi je suis inquiète, très inquiète, mais voilà, on est en train de construire des choses avec avec chaque famille, avec chaque individu, pour voir les situations des uns et des autres, et de regarder qui veut quoi aussi, parce que c'est ça qui compte, c'est pas nous, nos normes et nos standards, c'est vraiment de regarder ce qu'ils veulent. On est un peu exigeant sur les questions de santé et de scolarisation, parce que des fois ils veulent pas, mais là pour le coup on est un peu exigeant.
Donc là tous les enfants sont scolarisés.
Non, c'est un travail de longue haleine. Les premiers qu'on a eu là en février, donc au début ils étaient donc beaucoup moins nombreux. Les premiers qu'on a eu, il y a eu 5 enfants, ils sont scolarisés, là pour le coup c'est bon, ils y vont. Ils ont fait un voyage scolaire, là, je suis venu une classe de découverte, là, et ça s'est super bien passé, c'était un bon moment de rencontre, voilà. Mais avec les autres, le travail s'engage. Voilà, mais c'est compliqué.
Donc vous êtes élu depuis combien d'années?
Depuis 3 ans seulement. Toute nouvelle élue, voilà. C'est la première fois qu'on est confronté au pouvoir, évidemment. Mais même la ville, en termes de proportion, là, on est à autour de 200 personnes, c'est un gros campement.
Il y a combien d'habitants à Ivry-sur-Seine?
55 000 le dernier recensement. Dans la réalité, 56 000. Voilà. Après, les responsabilités politiques, c'est pas une collectivité territoriale qui peut gérer autant de personnes. Donc il y a l'État, il y a l'Union Européenne, il y a des choses à faire et pour l'instant on les voit pas trop. On attend toujours la réponse du préfet qui nous a pas répondu. On demande un rendez-vous et même ça, on n'a pas eu de réponse. Voilà.
Et sur la question du terrain, vous avez un peu de marge de manœuvre ou pas?
C'est pas le nôtre. Pas le nôtre, c'est celui de la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Donc voilà, ils ont intenté un procès qu'ils ont perdu, c'était le 8 avril si je me souviens bien. Voilà, ils ont perdu, ils ont jusqu'au 8 juillet pour faire appel, donc on verra bien le 8 juillet ce qui se passe, mais voilà.
C'est une vision particulière de l'assistance publique, hein, quand même, de pouvoir expulser des gens en difficulté, oui.
Tout à fait, et puis on a bataillé rien pour tirer l'eau, parce que le système le plus simple, c'était de demander de tirer l'eau de chez eux,
C'est même ça, ça a été...
C'est juste à côté.
Juste, d'accord.
C'est juste là, derrière les arbres.
D'accord. Mais ils ont refusé, donc...
Non, ils ont pas refusé, mais on a bataillé...
Alors, il y a une petite cabane qui a été fabriquée avec la bâche d'une banque française bien connue, qui a été mouillée dans des grosses affaires, mais quand même de la crise financière. Bon, ben voilà, il y a une bâche qui a été recyclée pour servir de toit à une petite... C'est pas grand chose.
C'est pas grand chose, ça pourrait être beaucoup mieux vu la banque. C'est, faut pas le dire, mais après c'est... Ouais, puisqu'à Ivry-sur-Seine, ça fait des années qu'on accueille des familles en beaucoup plus petit nombre. Et en fait, on est assez exigeant sur les garanties qu'on leur apporte. Donc là, on a une trentaine de personnes qu'on suit depuis 6 ans. Donc là, tous les enfants sont scolarisés. Sur les questions de santé, ça marche bien. Enfin, voilà. Ils sont sur un terrain de la ville. On a décidé de transférer une école. Donc, il faut qu'ils s'en aillent. Mais... Voilà, c'est... Coucou! Donc voilà, on considère que c'est de notre responsabilité, une fois qu'on s'est engagé, d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais pour 200 personnes, on peut pas. On peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les... Et eux, ils peuvent pas aller ailleurs. Faut bien qu'on trouve une solution, hein? Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je suis très contente que vous soyez là et que vous soyez là. Donc, Constantin a perdu son accordéon lors de l'incendie du campement de la route nationale 305 au mois de février. Et quand j'ai rencontré Constantin dans le gymnase de l'école Joliot, il était extrêmement malheureux parce qu'il avait perdu son instrument de musique. Et puis il avait aussi perdu son instrument de travail. L'accordéon qui lui permet chaque jour de gagner quelques euros. Qu'il dépense partiellement pour se nourrir et s'habiller. Et puis, jour après jour, il met quelques euros de côté pour envoyer chaque mois en Roumanie autant d'argent qu'il le peut. Pour ses enfants qui sont restés là-bas. Voilà. Donc, comme j'avais un voisin et ami, Francis, qui est accordéoniste, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'aller parler à Francis pour savoir s'il avait pas une idée pour aider Constantin. Francis, très généreusement, a prêté un de ses plus accordéons pour que Constantin puisse continuer de gagner sa vie. Et puis, quelques jours après, il est revenu me voir en disant « Voilà, les musiciens avec lesquels je travaille seraient d'accord pour donner un concert de solidarité à Ivry qui permettrait sur une partie de la recette de racheter un accordéon à Constantin. Et voilà. Et depuis ce jour-là, avec Constantin, on compte les jours. Et dimanche dernier, je disais à Constantin, plus que 5 jours. Et voilà, on a égrené les jours et aujourd'hui, c'est arrivé. Donc Francis lui donne l'accordéon. Merci beaucoup.
Thank you.
offre ton discrimine aux magites, la crainte et l'ancré le dégoût. Ce texte a franchement le parfum des égouts. Il réduit des humains au statut de vermine, comme pendant la guerre, font remarquer certains, se souvenant du triste et glauque vélodrome. Désormais, lance-t-il en rafle donc les roms, les non-voyants cessent de jouer les puritains.
Votre famille,
bon, on me soutient. lângă mine doi copii din care am trei copii, doi lângă mine și o fetiță născută în Paris, aici, în...
J'ai pas l'argent pour l'amener là.
Bien sûr, ça me rend un petit peu malade.
Din cauza că să se iese un ban aici, din cauza că pentru asta am plecat. Am mai explicat de multe ori la un interviu, pentru că multe lume nu prea pricepe, îți venesc pentru alte motive. Eu am venit pentru motive din cauza că e grea viața în România.
On est là en France parce que en Roumanie on a eu des inondations et après on a resté sans maison et c'est pour ça qu'on a venu en France pour une meilleure vie. Et peut-être les autres comprennent mal qu'on n'a pas venu pour voler ou pour faire des bêtises. On veut travailler comme tous les gens, honnêtement. Et c'est dur, quand même, c'est dur. On part en Roumanie une fois par an qu'on a d'argent, mais on se perd pas de partir très souvent. Quel est votre métier, là?
Aici e multe jositoare, într-adevăr recunoaștem că uităm să mergem la munte, dacă nu este chiar ceea ce face toată lumea de pe plasă. Ferane, la ferai, gândiți că mai bine. Deci strângem un cablu, adunăm bucată cu bucată, știm că luăm la o lună de zile 102 de euro.
On veut gagner notre vie honnêtement. Bien sûr, c'est un peu humiliant pour nous parce que pour gagner notre vie à Paris, on cherche les poubelles, on collecte des ferrailles dans la rue, et c'est difficile et humiliant pour nous.
Quand est-ce que vous êtes dans le Până revoluție lucra, persoanele care lucra cu 10-12 clase, munca lor de 10-12 clase cu facultăți, acum linia asta cu 10-12 facultăți lucrează munca unei omului.
Le pire en Roumanie, c'est que avant, les non-qualifiés qui n'ont pas eu leur diplôme, ils pouvaient travailler tranquillement comme manœuvre ou quoi. Mais aujourd'hui, il y a des gens. Ils ont eu leur diplôme, même 2-3 diplômes, et aujourd'hui ils travaillent comme manœuvre. Et bien sûr que nous, qui on n'a pas, même pas l'école élémentaire, on n'a pas de place.
Alors on peut sortir les enfants parce qu'il y a une quinzaine d'enfants là qui se sont tous agglutinés devant l'accordéon de Constantin. Et puis voilà, le groupe va s'installer à nouveau, donc on est au milieu du terrain, il y a des trains qui passent là devant nous, on est au milieu des petites tentes et des cabanes de toile, il y a quatre chaises en plastique là qui sont... placé en arrondi, Il y a le carrefour aussi qui est là.
Euromillions.
Et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pour que le rêve devienne réalité, nous avons besoin de vous maintenant. Le 6 juillet prochain sera choisie la ville qui accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2018. Soutenez la candidature sur annecy2018.com. Annecy 2018, la neige, la glace et vous. Radio France, supporter d'Annecy 2018. Livre Inter 2011. Que font les reines après Noël? Olivia Rosenthal. Je dirais que c'est un livre à la fois sur la condition humaine et aussi sur la condition animale et essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est d'être un animal, qu'est-ce que c'est d'être un homme et est-ce que les frontières sont aussi nettes qu'on veut bien nous faire croire et voilà, ça parle un peu de ça et ça parle aussi de la question de l'éducation. Pour devenir un homme, il faut qu'on soit éduqué pour, et ça a des bons côtés, puis ça a aussi un peu des mauvais côtés. Il est aussi question de l'émancipation d'une femme, un livre qui allie profondeur, émotion et fantaisie. Que font les reines après Noël? Olivia Rosenthal, Livre Inter 2011. 16h sur la Terre, on se retrouve demain à 15h pour la base et j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Boy, salut. Témoignages qui nous parviennent de la frontière entre la Syrie et la Turquie sont très inquiétants. Des chars ouvrent le feu dans toutes les directions, raconte un homme cité par Reuters qui a eu ses parents au téléphone dans le village de Manag, au nord de la ville d'Alep. Les gens fuient dans toutes les directions, dit-il. Des chars sont aussi entrés dans le village frontalier de Kirbet al-Jouz où l'on signale des tireurs embusqués sur les toits. Selon la Croix-Rouge turque, 600 Syriens apeurés ont franchi la frontière ce matin pour se mettre à l'abri. Côté turc. Actualité à l'étranger, toujours des manifestations violentes à Dakar. Il y a plusieurs blessés, dont une figure de la société civile sénégalaise, ardent défenseur des droits de l'homme, Aliou Ntine. Heure avec des policiers en marge d'une manifestation contre une réforme constitutionnelle controversée. Plus de transparence, indépendance accrue des médecins face aux laboratoires, refonte totale du système des visiteurs médicaux. 8 mois après l'affaire du médiateur, le gouvernement annonce une vaste réforme du circuit de distribution et de contrôle des médicaments. Réforme saluée par Irène Frachon, la pneumologue qui avait révélé ce scandale. Il y a une vraie rupture, dit-elle. Elle se dit même impressionnée par le plan annoncé par le ministre de la Santé, Xavier Bertrand. les ministres de l'agriculture des 20 pays les plus riches de la planète réunis à Paris. Bruno Le Maire, ministre français, salue des décisions historiques, mais des ONG tempèrent son enthousiasme. Accord à minima, selon l'organisation One. Concrètement, il a été décidé de créer un forum de réaction rapide pour agir en cas de crise mondiale sur les prix. Une augmentation de 70% de la production alimentaire mondiale d'ici 2050. Une base de données sera créée pour pousser les États à être plus transparents sur l'état de leurs stocks, mais rien de contraignant. Et puis le point essentiel, la meilleure régulation des marchés est renvoyée au ministre des Finances du G20. Ce sera à eux de plancher pour trouver des solutions. Le BAC 2011 et ses couacs, plusieurs enquêtes sont en cours après la fuite avérée sur l'examen de maths en section S et une enquête administrative a été lancée sur une possible fuite sur l'anglais et la physique dans la même section. En revanche, le remplacement à la dernière minute du sujet national d'économie au bac ES s'explique par une raison très banale. Il a été distribué par erreur lors de l'examen d'histoire-géo dans un lycée lyonnais. La direction a prévenu le rectorat puis le ministère et c'est le sujet de secours donc qui a finalement servi pour tout le monde. Procédure très classique et sans conséquences pour les candidats. En cas de nouveau scrutin cantonal en Corrèze, Bernadette Chirac n'aura plus le même adversaire socialiste. François Barbazange jette en effet l'éponge. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui avait déposé plainte pour irrégularité, mais des électeurs. L'élection a été invalidée en raison de 2 bulletins en trop dans les urnes par rapport au nombre de votants. Bernadette Chirac avait été élue dès le premier tour avec une majorité plus une seule voix, 1114 voix contre 1004 pour les socialistes et une centaine pour les verts. En cas de réélection, elle dispose donc d'une confortable avance.
Tous les jours,
à partir de 11h, Stéphane Bell,
Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour commencer les brigands de Jacques Offenbach, opéra bouffant, trois actes de l'opéra comique jusqu'au 2 juillet, France Inter, et partenaire de ces représentations, il y aura François-Xavier Roque, chef d'orchestre avec son ensemble Les Siècles, Jérôme Deschamps pour la mise en scène, Macha Makeyev, et pour la mise en scène et les costumes, etc., etc., de très beaux artistes, et puis, cœur de l'opéra de Toulon. Et c'est un moment de divertissement, il y aura les Offenbach, c'est rare qu'on se mette à pleurer. Bien sûr, l'histoire de bras cassés, en fait, c'est brigand. Ils font une bonne appelinade, c'est pas vraiment des héros, ils font pas les bandits redoutables, des romantiques, mais enfin bon, ils ont leur caractère, c'est des losers, ce sont des personnages qui ratent un peu tout, qui nous deviennent très très sympathiques. Voici l'ouverture de ces brillants opéras de Jacques Offenbach.
Ouverture des brigands de Jacques-Offenbach par l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Jean-Louis Gardiner. Donc, cette ouverture qui ne casse pas trop patte à un canard, mais qui est mignonne, qui est sympathique, qui campe un peu l'affaire, et puis il y a des gens sur scène, il y a du décor, tout ça, ça sera joué à l'opéra comique sur les instruments du 19e siècle, et François-Xavier Roth, le chef d'orchestre, nous rappelle qu'au 19e siècle, la facture instrumentale, les instruments à vent notamment, étaient vus par les musiciens de toute l'Europe comme un exemple de clarté, de brillant et de précision. Donc, à déguster. Et puis, voici justement les bras cassés, le cœur des brillants. Ils arrivent, ils entendent le corps qui sonne trois fois, et puis ils vont se regrouper, ils sont évidemment un tout petit peu désorganisés au départ. J'ai dit son épinité en quelque sorte, et voici que Barbavanon, qui court du fond de la scène, crie qui vive, qui vive. Plusieurs voix du dehors, les brigands, les brigands.